Bonjour à tous et bienvenue à Chant contre Chant, rendez-vous mensuel sur le cinéma proposé par l'association Profil sur antenne de Fréquence Protestante. Émission présentée par moi-même, Jean Lot, qui sera animée par Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour tout le monde.
Jean-Michel Jucker, bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Et Jean Miklowski, bonjour Jean.
Bonjour tout le monde.
J'espère que vous êtes bien rentré de Cannes. Cette émission justement sera différente de toutes les émissions habituelles car elle sera intégralement consacrée au festival. Qui se terminait avant-hier, les films sont encore tout chauds. Alors, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire de ce festival 2016? De manière générale, qu'il a été satisfaisant, il me semble, même si, parmi les réalisateurs connus, qui étaient nombreux dans la compétition, il me semble que certains n'ont pas eu la prestation qu'on attendait d'eux. Et quant au palmarès, on peut remarquer que le jury n'a pas pris beaucoup de risques. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Écoutez, moi je pense que c'était un bon cru par rapport à d'autres années et que les films étaient d'un très très bon niveau, à part quelques
pour
films.
Pour quelques-uns, oui.
Quelques-uns vraiment catastrophiques.
Même impression satisfaisante.
Oui, je trouve que il y avait beaucoup de films moyens, un peu de bons films, mais malheureusement pas de grands chocs,
oui,
comme on avait
ça,
les années précédentes avec The Assassin ou Moby ou
Winter Sleep ou La Vie d'Adèle.
Voilà, il n'y avait pas de grands trucs, quoi. Ouais. C'est dommage.
Ouais. Un festival bon, mais un peu uniformément de qualité. Bon, ben, on va rentrer tout de suite dans le sujet très vif du palmarès en parlant justement de cette palme d'or dont on critique un peu le choix. Moi, Daniel Blake, film, il faut le signaler, qui a aussi reçu une mention spéciale attribuée par le jury œcuménique. Alors Marie-Jeanne, est-ce que toi tu es ravie de cette palme?
Oui, moi je suis ravie de cette palme parce que le cinéma engagé et social de Ken Loach est bien connu et il nous présente ici un film d'une très grande force. Alors c'est l'histoire de ce malade du cœur de 59 ans, menuisier, qui a perdu son emploi parce qu'il était malade et qui se bat contre deux administrations, l'administration qui doit lui octroyer des indemnités mais qui dit qu'il est apte au travail et d'un autre côté le pôle emploi anglais qui le mène de formalité en formalité, qui ne peut pas accomplir. Enfin, c'est vraiment kafkaïen. On lui demande de remplir des exemplaires par Internet. Il n'a pas Internet. Il ne sait pas utiliser l'ordinateur. Et pendant ce temps, évidemment, il ne reçoit aucune rémunération. Et le temps passe. Alors, au cours de ces visites au Job Center, il rencontre Cathy, mère de deux enfants, qui est également prise dans ces filets absurdes de cette administration et se trouve tout aussi bien dans une situation aussi précaire que lui. Alors le réalisateur a l'art de réveiller notre bonne conscience, de nous rappeler des solutions et des situations que nous ne voulons pas toujours voir. Alors certains critiques penseront peut-être qu'il en fait trop et je trouve personnellement que ce n'est jamais assez quand il s'agit de dénoncer un système qui humilie les individus et les plonge dans des situations désespérées. C'est un film fort dont on sort bouleversé et je trouve courageux de la part du jury du festival d'avoir couronné un film aussi socialement engagé.
Oui, Jean, tu as le même sentiment de...
Simplement, je regrette que la palme soit venue à quelqu'un, à Ken Loach, dont on connaît déjà largement le profil. Ça aurait été... Bon, c'était pas très innovant, c'est dommage.
Oui, c'est un peu le sentiment que j'ai aussi. J'aime énormément ce film, mais je me demande un peu qu'est-ce qu'il faisait à Cannes. Parce que finalement, est-ce que Ken Loach a besoin de chercher les paillettes et la reconnaissance d'un festival?
Oui, moi je suis d'accord à la fois avec Marie-Jeanne pour dire que c'est un bon film, avec Jean pour dire que c'est un film qui n'aurait pas dû avoir la palme, à mon sens, parce qu'il n'a pas de novation par rapport au film précédent, et c'est une deuxième palme après Le Vent se lève il y a 10 ans, et donc je déplore un petit peu, n'ayant pas pu donner mes impressions sur le festival il y a quelques minutes, je dirais que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. C'est une très bonne compétition. C'est une compétition dans laquelle il y a à peu près la moitié des films qui ne sont pas au palmarès et qui auraient dû y être, on y reviendra. Et enfin, il y a vraiment des films superbes qui ont émergé, sur lesquels on reviendra aussi dans la discussion. Donc... je regrette cette palme d'or, mais le jury œcuménique a bien fait, à mon sens, de lui donner une mention.
Oui, de toute manière, il avait déjà couronné plusieurs fois Ken Loach. C'était difficile de le couronner entièrement une autre fois. Alors, je crois qu'on va tout de suite passer maintenant à un des films, justement, qui, je pense, entre dans la catégorie que tu cites, Jean-Michel, c'est-à-dire des très bons films. C'est Juste la fin du monde de Xavier Dolan, qui a donc reçu le grand prix du festival et qui a également reçu le prix du jury œcuménique. Alors, Jean, comment tu réagis à ce Xavier Dolan?
C'est un bon. Xavier Dolan, donc, était, comme tu viens de le dire, déjà présent à Cannes il y a 2 ans avec Mommy, où il avait obtenu le grand prix du jury. Et cette année, avec Juste la fin du monde, il est très bon et en plus, il a jury œcuménique. Ce jeune prodige canadien de 27 ans signe ici son 6e film. Louis, Gaspard Ulliel, 34 ans, rend visite à sa famille pour la première fois depuis des années. Il y retrouve sa mère, Martine, jouée par Nathalie Baye, sa sœur Suzanne, Léa Seydoux, son frère Antoine, Vincent Cassel, et sa belle-sœur Catherine, Marion Cotillard. Le film est très largement inspiré par la pièce de Jean-Luc Lagarce, mort à 38 ans du sida. Comme ce dernier, Louis est homosexuel, ainsi que lui rappelle sa mère. Louis est là pour annoncer sa mort prochaine, mais chaque fois qu'il veut aborder ce sujet, il en est empêché. Il faut dire que si Louis parle peu, les autres membres de la famille s'en donnent à cœur joie. Et finalement, l'excès de parole empêche que l'on s'entende. C'est spécialement vrai de son frère Antoine, manifestement jaloux de son cadet. On assiste à une hystérie et à une surenchère permanente, le tout filmé en gros plan. Il s'ensuit une sensation de claustrophobie pesante. Dans son discours de remerciement au jury, Xavier Dolan parle de l'incertitude d'être aimé, de la difficulté d'être compris, et il cite Anatole France. « Je préfère la folie des passions à la sagesse de l'indifférence. » C'est bien là la problématique de Louis, qui finalement repartira sans avoir réussi à communiquer avec sa famille. Le titre ressemble à l'expression « Ce n'est pas la fin du monde » pour dire « Ce n'est pas grave ». Le film annonce ce qui n'est rien de grave, juste la fin du monde. Mais ce monde se réduit à celui de Louis et à sa vie menacée. C'est du grand cinéma qui confirme Dolan au niveau des plus grands. Mais, quant à moi, je regrette un peu le Dolan d'avant, avec son paroxysme, sa démesure, ses changements de format et aussi son bel accent québécois.
Oui, moi je trouve également que ce film, pour intéressant qu'il soit, pour beau qu'il soit, est quand même, pour moi, un niveau au-dessous de Mommy, ou du moins infiniment moins personnel que Mommy. Et moi, il y a vraiment trois reproches graves que je fais à ce film. D'une part, quoique Jean-Michel dise le contraire, et je pense Marie-Jeanne aussi, pour moi, j'ai quand même eu beaucoup l'impression d'être devant du théâtre filmé. Le second reproche, c'est que j'ai été absolument écrasé par le déluge de paroles qui, je trouve, étouffe pas mal l'image.
Ouais,
et puis enfin, dans l'histoire, on a l'impression que chaque personnage a son monologue et que c'est en fait une succession de monologues et que finalement, il n'y a pas d'histoire. Voilà, finalement, tout en trouvant ce film très beau, je suis resté un petit peu en dessous de mon attente.
Non, alors, je suis pas d'accord du tout. Je trouve que ce film est vraiment à la hauteur du talent de Dolan. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse toujours les mêmes films. Ce film est certes différent des autres. Il est plus retenu, moins sentimental, mais il est tout aussi fort. Quant à dire que c'est du théâtre filmé, là encore, je ne suis pas du tout d'accord. Il filme ses personnages en très gros plan, ce qui évite évidemment de donner l'impression que c'est du théâtre filmé. Et je trouve qu'il fait des plans magnifiques avec...
Il y a des plans magnifiques, mais c'est une chute de champ contre champ.
Mais non, mais il y a un talent qui est indéniable et qui fait un magnifique film dont on sort tout aussi bouleversé que de Mommy, qui est différent, d'accord, mais qui est d'aussi bonne qualité que Mommy, personnellement.
Non, c'est pas du tout une suite de chant contre chant, c'est pas du théâtre filmé, je suis complètement d'accord avec Marie-Jeanne. Je regrette pas l'accent québécois parce que c'est au profit de 5 comédiens qui sont admirablement dirigés, tous, et qu'on voit au mieux de leur forme, avec un Gaspard Ulliel particulièrement émouvant dans le rôle de ce jeune homme qui revient chez lui pour essayer, mais en vain, de transmettre ce message déchirant. Et pour moi, c'est probablement un des 2 ou 3, sinon le film le plus impressionnant de la compétition par son talent. Et heureusement qu'il a eu le prix du jury œcuménique.
Ah oui, le prix du jury.
Et accessoirement le Grand Prix.
Oui.
Bon, donc on va rester sur un constat de désaccord et puis passer au film, au prix suivant, que c'est le prix de la mise en scène, qui a eu deux lauréats, ce qui est quand même assez rare. Le premier de ces lauréats, c'est Christian Mungiu, qui a donc été primé pour son film Baccalauréat. Jean-Michel, je crois que tu as beaucoup aimé ce film.
Oui, je suis content de ne pas avoir à présenter le ex-aequo. Christian Mungiu est pour moi un grand réalisateur. On le savait depuis la Palme d'Or des 4 mois, 3 semaines, 2 jours qu'il avait présenté il y a quelques années. Et ici, il s'impose comme un très bon réalisateur à nouveau. Avec la description de ce qui existe dans son pays, mais qui en fait n'est pas propre à son pays, et qui est la corruption universelle qui règne à tous les niveaux de la société, et qui est le décor de ce film. L'histoire elle-même, c'est celle d'un médecin, Roméo, dont la Juliette n'est pas son épouse, mais sa fille, Elisa, à qui il veut préparer un avenir radieux loin de cette Roumanie pourrie et l'envoyer à l'étranger. Mais malheureusement, elle est agressée à la veille du baccalauréat qui lui permettrait de faire ce départ. Et tout le film repose sur les moyens inavouables que va mettre en œuvre son père pour lui permettre néanmoins d'aller à l'étranger. Alors c'est donc une illustration du cinéma de l'inquiétude morale qui est particulièrement impressionnante avec toutes les compromissions et le fait que la fin justifie-t-elle les moyens.
Oui, d'accord. Marie-Jeanne, tu as pas une petite réaction?
Oui, j'ai beaucoup aimé ce film qui est très très soigneusement réalisé, qui est fort et qui, malgré sa longueur, ne suscite à aucun moment l'ennui. J'ai toutefois un petit bémol, en ce sens qu'il y a quelques scènes qu'on ne comprend pas et on reste trop sur des interrogations, il y a trop d'interrogations qui nous laissent sans réponse.
Oui, il y a un événement important qui est l'agression de la jeune fille.
Oui, par exemple.
De même que ça commence avec des pierres jetées à travers les vitres, tout ça reste inexpliqué et on se demande un peu pourquoi ça reste dans ce flou. Bien, on va passer à l'autre film qui a reçu ce prix de la mise en scène, c'est Personal Shopper d'Olivia Sayas. Bon, c'était le seul des 4 films français de la sélection à apparaître dans le palmarès, et à mon avis c'est un petit peu dommage car ce n'est vraiment pas le meilleur. De plus, on ne sait pas très bien pourquoi c'est un film français, parce qu'on n'y parle qu'anglais, parce que tous les personnages parlent qu'anglais. Le personnage principal, Kristen Stewart, est américaine, et elle joue le personnage de Maureen, une américaine, qui est acheteuse de bijoux et d'articles de mode, pour une vedette très médiatisée et très débordée. Alors Maureen vient de perdre son frère jumeau, et comme il était vaguement médium, et elle aussi, elle va tenter d'entrer en communication avec lui, et attend des signes de l'au-delà. Elle en obtient d'ailleurs sous forme de robinet qui coule ou sous forme d'ectoplasme qui flotte dans l'air. D'où les échassaillages de créer une espèce de climat angoissant qui va s'accroître quand Maureen va s'engager, tout le temps d'un trajet Londres-Paris, dans une conversation par SMS avec un inconnu qui semble tout savoir d'elle. Bon, enfin moi j'ai trouvé ça assez attristant comme film. Quand on s'attaque au domaine du fantastique, ce que fait Assayas, il faut soit en adopter les règles, soit donner à la fin une expression satisfaisante au phénomène étrange que l'on a rencontré. Or, on a l'impression qu'Assayas donne l'impression de se prendre les pieds dans les chaînes de ses fantômes et de se casser la figure, d'où un effet comique assuré, ce qui, à mon avis, n'était pas quand même le but recherché.
Tout à fait. Ouais, c'est un film de fantômes, de spiritisme. Vraiment, je suis pas du tout rentré dedans. C'est vraiment, pour moi, pas un bon film du tout. Même si on peut penser que, par indulgence, qu'il est pas mal réalisé, mais
c'est sans aucun intérêt, ni dans son contenu, ni dans sa forme.
Oui.
J'ai quand même été saisi un peu par le climat d'angoisse qui réussit à créer. Et ça, c'est peut-être pour ça qu'il a pris la mise en scène, d'ailleurs. Oui. Ceci dit, ça reste quand même très, très en dessous du prix qu'il a reçu.
Je me félicite de ne pas l'avoir vu.
Je crois que tu as bien fait. Oui. Bon, on va changer tout de suite de genre et de film pour voir quelque chose quand même de plus sérieux et de plus remarquable. Là, il s'agit du prix qui a reçu le prix du jury et qui a également reçu une mention du jury œcuménique, signalons-le. C'est le film American Honey de l'anglaise Andrea Arnold. Jean-Michel, je crois que tu es entré dans ce film, que tu l'as bien aimé.
Oui, j'ai trouvé que ce troisième prix en importance dans le palmarès officiel est le fait d'une réalisatrice particulièrement originale qui nous avait donné d'ailleurs les deux longs métrages intéressants il y a quelques années qui étaient passés à Cannes. Cette réalisatrice fait quelque chose d'extrêmement séduisant avec une héroïne qui est véritablement charismatique, qui s'appelle d'ailleurs Star. C'est la star de ce film qu'elle emmène victorieusement vers ce succès. Il s'agit d'un road movie qui se traduit au sein des hippies du 21e siècle. Alors c'est pas les années 60, ça se passe maintenant, qui sont actuellement reconvertis en vendeurs de magazines qui font du porte-à-porte au compte d'une patronne qui est une véritable virago et qui répond au doux nom de Cristal. Et tout ce qu'on y voit, c'est évidemment une déperdition des valeurs de l'Amérique aussi. Et c'est une critique également acerbe de ce qui s'y passe, puisque c'est l'argent et le sexe qui prédominent chez ces jeunes. Alors, évidemment, on peut s'interroger sur la deuxième mention du jury œcuménique qui le couronne, mais ça, je n'y répondrai pas aujourd'hui. Néanmoins, sur le plan de la cinématographie, c'est quelque chose qui est très convaincant, bien que le film soit tout de même un petit peu long.
Oui, il est un petit peu long, mais effectivement très intéressant. Et moi, j'ai été très intéressé par cette description d'une frange de la société américaine, essentiellement jeune d'ailleurs, et assez inquiétante par cette espèce de manque de valeur qui est traduit. Comme tu disais, effectivement, les seules choses qui intéressent apparemment, qui ressortent de valeur, c'est le sexe et l'argent. Et avec tout ça, sur une adoration pour la musique et la danse, on a parfois l'impression d'un peu de barbare autour d'un feu de camp, finalement. Je trouve que c'est très, très sauvage et très inquiétant. Et, ma foi, on comprend un peu le phénomène de Donald Trump, finalement, à travers ce film, pour moi.
Mais oui, c'est d'une grande vacuité, mais c'est très, très bien fait.
Ouais. Non, je ne l'ai pas vu.
Oui, ben, allez le voir. Je crois que ça vaut vraiment le coup. Et parce qu'une grande homogénéité dans l'ensemble. Bon, passons maintenant au prix d'interprétation féminine. Il a été donné à Jacqueline José dans Marosa, film du Philippin Briante Mendoza. Alors, Briante Mendoza, bon, c'est un grand cinéaste. Hein. Il a déjà réalisé de très beaux films. Par exemple, il y a eu Serbis en 2002, il y a eu Lola en 2010, il y a eu Tacklub en 2015. Alors, qui est Marosa? Marosa, c'est une femme d'une quarantaine d'années qui tient une petite épicerie dans Manille. Elle a un mari, Nestor, elle a 4 enfants. Pour faire tourner la boutique, elle deal un peu. Elle revend de petits paquets de drogue, le Cristal. Un jour, des policiers déboulent, fouillent, trouvent la drogue et embarquent Marosa et Nestor. Et c'est là où le film commence vraiment. Quand Marosa et son mari, une fois au commissariat, découvrent que pour retrouver leur liberté, ils vont être proprement raquettés par les flics et que la rançon qu'il leur est demandée dépasse largement leurs moyens. Pour parvenir à la réunir, ils vont envoyer leurs 4 enfants à travers Manille et ce sont ces 4 quêtes que l'on va suivre tout au long du film. Alors, tout cela est filmé dans une ville noyée sous un déluge d'eau impressionnant, on se souvient de Tacklub, à travers des rues aux habitations misérables, envahies par le flot d'une population bruyante et grouillante de partout, et avec une vérité qui tient vraiment du documentaire, Mendoza se situe en permanence dans la proximité et l'empathie avec ses personnages, sans cesse écrasés, jamais abattus. C'est une magnifique leçon de courage et de solidarité. Enfin, pour moi, c'est vraiment un des plus beau film de ce festival.
Oui, tout à fait d'accord. C'est un très beau film et l'actrice est vraiment magnifique. Elle est toute simple, elle n'est pas du tout maquillée, elle est mal habillée. Enfin, on l'a d'ailleurs à peine reconnue quand elle a monté les marches parce qu'on se demandait si c'était la même. Et vraiment, elle joue un rôle de mère courage qui vraiment prend qui mord dans la vie pour sauver ses enfants. C'est vraiment magnifique comme film.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, complètement. Je regrette simplement que le jury œcuménique n'ait pas jugé bon de couronner ce film, essentiellement en cause de la personnalité de l'héroïne, qui est véritablement, comme tu le dis, Jean, une mère courage.
Oui, tout à fait. Vraiment un très beau film qui aurait peut-être mérité plus que simplement un prix d'interprétation féminine.
Certainement.
Mais on va entrer, parler maintenant du dernier prix, enfin du moins du dernier film couronné. Il s'agit d'un film qui a reçu à la fois, ce qui est quand même assez rare, le prix d'interprétation masculine et celui du scénario. Il s'agit du film Le Client d'Asghar Farhadi. Et l'acteur qui a reçu donc ce prix d'interprétation masculine, c'est Shahab Hosseini. Alors, Marie-Jeanne, qu'est-ce que tu...
Alors, écoutez, Le Client, donc, a clôturé très superbement ce festival. Après Le Passé, qui, à mon avis, n'était pas son meilleur film, le réalisateur retrouve ici la veine d'une séparation. Alors, le propos est assez simple. Rana et Emad sont acteurs de théâtre. L'immeuble qu'ils habitent va être évacué parce qu'il menace de s'écrouler. Et donc, ils aménagent dans un autre appartement. Et là, un incident grave dont on ne sait pas toujours jusqu'où il est allé, d'ailleurs. C'est ça qui est l'intérêt dans le film aussi. Qui est lié à la précédente locataire, va bouleverser leur vie de couple. Alors ce film, je trouve, est réalisé avec infiniment de délicatesse, de finesse, de sensibilité, de pudeur. Tout n'est pas dans le dialogue, il est aussi bien dans les regards, dans les silences, et Shahab Hosseini joue magnifiquement. Et ce très beau film laisse entrevoir d'ailleurs l'état de la société iranienne actuelle, qui est assez décrépite à mon avis.
Oui, il me semble, Jean-Michel, que toi tu n'avais pas beaucoup apprécié ce film.
Non, moi j'aime bien Farhadi au niveau de la séparation. Le film suivant, Le Soir c'est le passé, m'avait déjà un peu déçu. Celui-là m'ennuie complètement, ou alors c'est trop subtil comme scénario pour moi, mais je passe à côté d'une histoire qui se traîne, qui est pleine d'invraisemblances et où je ne vois pas l'intérêt de nous présenter ces apparents états d'âme sans aucun attrait, et je suis extrêmement déçu.
Oui. Oui, oui. Moi, enfin, je veux dire que j'avais commencé par peu apprécier ce film, et puis à la réflexion, moi, j'ai trouvé qu'il était quand même extrêmement intéressant. Genre, ce qui m'a plu dans ce film, c'est un peu, bon, ça repose sur une agression. Enfin, ce qu'on suppose une agression. On retrouve donc cette femme qui est à moitié évanouie, qui saigne de partout, et qui apparemment ne sait plus tout ce qui s'est passé. Et il y a ça en creux, l'idée d'une agression sexuelle, ou du moins, on sent que c'est ça que pense son mari, et finalement, sans le dire, on est dans le fantasme du mari. Et je trouve qu'on est dans un fantasme qui n'est pas exprimé, ce qui est le rôle du fantasme. Le fantasme n'est jamais exprimé, et je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans ce film. Cette espèce de disparition, d'effacement de l'acte fondamental du film.
Et puis quand on sait ce que ça peut réaliser, ce que ça peut représenter dans la société iranienne, c'est quand même très fort et pas du tout invraisemblable.
Non, je crois que Jean-Michel ne sera pas convaincu.
Non, pas du tout. J'irai peut-être le revoir si vous m'en convainquez.
Oui, oui, oui.
Oui, je vas-y. T'encourage.
Oui, oui. Vas-y, revoir, vas-y, Jean-Michel.
Non, mais c'est trop ennuyeux.
Non. Bien, bon, on va laisser Jean-Michel et son ennui pour le film Farhadi, et on va passer à quelques films qui malheureusement n'ont pas été cités par reconnus par le jury, qui n'ont pas été cités au palmarès. C'est dont il faut quand même parler. On pense par exemple à ce film qui a eu un énorme, c'était vraiment le choc du festival, c'est ce film allemand qui s'appelle Tony Erdmann de l'allemande Maren A2, où on a vu, chose incroyable, le public assez toujours froid des critiques du festival se lever en applaudissant et en rigolant. Voilà. Marie-Jeanne, toi, est-ce que tu as ri à ce film?
Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec ces critiques, et d'ailleurs dans la salle Lumière, il a eu une standing ovation. Rapidement le propos, qui est incarné par la remarquable Sandra Hüller, travaille à Bucarest pour une société allemande au département qui s'occupe en particulier de l'externalisation, c'est-à-dire d'implanter des unités de production dans un pays où le coût de la main-d'œuvre est moins élevé, et donc supprimer des postes en Europe. Alors elle est très impliquée dans son travail et son père débarque chez elle à l'improviste. Il va l'aider, malgré elle, à retrouver un sens à sa vie, mais par des procédés très, très étonnants. Alors, c'est une façon pour ce film de traiter de sujets graves, comme par exemple le sens que l'on donne à sa vie lorsque le travail prend le pas sur tout le reste, ou les rapports père-fille, avec une drôlerie absolument jubilatoire et irrésistible. Je trouve que il est dommage, et là je mettrai un bémol important, il est dommage que ce film soit si long. Il y aurait une demi-heure de moins, notamment dans la première partie où on parle de son travail, où c'est compliqué. Je crois que ça aurait donné beaucoup plus de relief aux facéties de son père qui il utilise des procédés comiques, contrairement à ce que pensait peut-être Jean-Michel.
Douteux.
Probablement, non, pas du tout. Pas du tout, des procédés comiques assez originaux.
Et l'humour teuton.
Non.
Ah ouais, colossal.
Moi, j'ai tendance à dire que c'est un brouillon qu'on aura envie de dire au réalisateur. Oui, il y a des idées, reprenez votre copie.
Oui, voilà. Faites-le moins long, plus ramassé. Mais, oui, d'accord. Ouais, mais c'est un film à voir quand
c'est
même. Absolument.
Jean-Michel, toi, tu voulais nous parler d'Estelle.
Bon, moi, je voulais parler de deux films. Alors, d'elle, si tu veux, d'abord, puisque le film est en salle et que je recommande à tous d'aller le voir, courir à aller le voir, parce que c'est peut-être, et ça pourrait être pour certains, le meilleur film du festival. Il a été très injustement, très scandaleusement oublié. C'est un film de genre, certes, mais c'est un film qui est adapté, là aussi, d'une œuvre littéraire, d'un livre de Jian qui s'appelle O.H., tout simplement. Et ce film est un film qui a toute sa valeur grâce à la performance d'Isabelle Huppert, qui est dans un genre noir et sulfureux tout à fait au sommet de sa forme et qui tient le film tout du long avec un humour constant et un casting parfait pour tous les rôles et où on voit l'ambiguïté d'une personne qui est une proie en face d'un prédateur. Et on ne sait pas quelquefois qui est la proie et qui est le prédateur. Je ne dévoile rien de ses ressorts, mais c'est un film étincelant, fidèle à la réputation du réalisateur néerlandais Paul Verhoeven.
Oui, et tu voulais nous parler aussi d'Aquarius.
Alors, en deux mots, Aquarius est aussi un film qui est une très très bonne surprise dans le festival, de Kleber Mendoza Filho, qui avait fait Les bruits de récif il y a quelques années. Et ce film brésilien, qui est un film choral, qui cette fois-ci est emmené par une autre actrice prestigieuse qui aurait pu, elle aussi, mériter un prix d'interprétation féminine et qui est Sonia Braga, grande actrice brésilienne, dans le rôle de Clara, une grande bourgeoise qui vit sur le littoral de Rio dans un appartement qui reste le seul d'un immeuble qui a été complètement racheté par une société immobilière et qu'elle ne veut pas céder. Et c'est l'occasion de montrer les tares de la société brésilienne avec une grande acuité et en même temps de montrer avec une grande fluidité les rapports entre la vie actuelle de cette Clara et les personnes de son entourage et de ses proches qu'elle a rencontrés dans le passé. C'est un très beau film et... là aussi, il n'est pas au palmarès.
Oui. Il y a très beau film de résistance.
De résistance.
Et le personnage est admirable. Alors, Damrijan, je crois que tu vas parler d'un film qui, pour moi, est bon.
Ah, écoute,
mon préféré, c'est Patterson.
Oh là là. Patterson de Jim Jarmusch. C'est une véritable pépite, vraiment. Alors, il y a un scénario minimaliste. Patterson, qui est incarné par Adam Driver, qui vit dans la ville de Patterson. Qui est la patrie des poètes comme William Carlos Williams et Allen Ginsberg. Alors, ce Patterson est chauffeur de bus. Il refait tous les jours les mêmes gestes, du lundi au dimanche, et on le voit tous les jours, entre sa femme un peu folle-dingue et son bulldog anglais qui est absolument un acteur merveilleux, qui d'ailleurs figure au générique. Et alors, ça pourrait paraître fastidieux, mais le génie de Jarmusch en fait un film d'une très grande poésie et d'une extraordinaire légèreté, l'art d'ériger les petites choses de la vie comme des poèmes, et le film lui-même est bâti comme un poème. Enfin, c'est un régal de l'esprit pour qui aime la poésie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
C'est un film qui est finalement Et fait de tellement peu de rien.
Oui.
Alors qu'actuellement on en rajoute, ça c'est un film qui en enlève. Donc ça c'est vraiment remarquable.
Oui, c'est un film d'un art suprême et qui véritablement, pour les cinéphiles, est probablement le film qui aurait pu avoir la Palme d'Or, mais
c'était trop.
Il n'y avait pas que des cinéphiles au jury,
non,
malheureusement.
Mais oui, ni dans le public.
Bien, bon, on va rester là avec la compétition officielle, enfin celle de soumise à au palmarès, et pour aborder l'autre sélection du festival, qui est la sélection Un certain regard. Alors là, on va être plus rapide, on va simplement parler des films qui ont été couronnés dans cette sélection, commençant par le film qui a reçu Un certain regard, le prix Un certain regard. Jean-Michel, je te laisse te lancer dans ce à pièce D.
Oh, très rapidement, mais d'une façon très très nette, c'est un film dont on est content, certes, qu'il ait eu un prix, peut-être pas le prix suprême, mais enfin, il a le mérite d'être un premier film, un premier long métrage d'un Finnois. Un certain Juho Kuosmanen, et le titre de ce film, c'est un titre anglais, The Happiest Day in the Life of Olli Maski, la plus belle journée dans la vie de Olli Maski, qui est un boxeur poids plume ou qui pense qu'il va faire une belle carrière pour rencontrer le champion du monde dont on espère qu'il va faire de la Finlande le lauréat de ce championnat. Et puis il est happé par son amour pour sa fiancée et il va tout laisser tomber. Le sujet est très mince, le sujet est terriblement mince, mais le traitement noir et blanc de ce film est intéressant. Les personnages sont sympathiques, le héros, sa fiancée, on ne s'ennuie pas. Bon, mais c'est un film qui n'est pas absolument majeur.
Oui, mais c'est très curieux parce que ce film, on le trouvait qu'il exerçait un charme certain.
C'est vrai.
Et pourtant, il est très simple. Tout est simple.
Ah oui.
Les plans sont
rustique.
Simples. Rustique, voilà. Tu l'as vu, Georges?
Non, je l'ai vu.
Non, enfin, c'est un film intéressant. Je suis pas sûr quand même qu'il ait mérité le prix Un certain regard, qui est quand même un prix extrêmement important.
Non, moi, je suis d'accord avec toi.
Ouais. Autre prix de la sélection Un certain regard, le prix du jury, qui a été donné à un film japonais, Harmonium, du japonais Fukada Koji.
Donc Harmonium, c'est son quatrième film. Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio, un ferronnier, mène une vie sans problème avec sa femme Aikiei et leur petite fille. Un matin, un ancien ami de Toshio, Yasaka, sortant de 10 ans de prison, vient lui demander du travail. Au grand étonnement de sa femme, celui-ci accepte et même lui propose de l'héberger. À la manière de Pasolini dans Théorème, le nouveau venu va prendre de plus en plus de place dans la famille, apprenant l'harmonium à la petite fille et entretenant une relation ambiguë avec la mère. Nous avons droit alors à de jolies scènes où le metteur en scène joue avec des relations troubles entre les personnages. Les leçons d'harmonium, les séances de couture d'Akier où Yasaka devient de plus en plus familier. Le film joue tout en finesse et on sent la tension monter entre les personnages. Et soudain, le rage éclate. Et là, malheureusement, Koji ne maîtrise plus son scénario. Le film dérape dans un mauvais thriller et même à la limite du gore quand on apprend les anciennes relations entre les deux hommes et surtout après l'agression contre la petite fille. C'est dommage, car Koji n'est pas réussi à maintenir jusqu'au bout l'intérêt du travail.
Oui, tout à fait d'accord avec toi.
Ouais.
Il y avait l'arrivée de cet inconnu au début qui a apporté quelque chose. Cet événement déclencheur du film était très,
très
fort.
Bien fait.
Et ensuite, on n'a
pas. Ça tourne en autre boudin et c'est fait. Dommage.
Ouais. Ouais. Ouais.
Ouais. Pourtant, enfin, c'est assez dommage parce que c'est quand même un des bons réalisateurs contemporains du Japon et on n'en voit plus tellement maintenant.
Absolument.
Encore un film du prix Un certain regard. Alors lui, il a obtenu le prix de la mise en scène. Il s'agit de Captain Fantastic de Matros.
Mais
c'est ça,
oui,
Jean-Michel?
Oui, tout à fait. Et c'est un prix qui est, à mon avis, parfaitement justifié. C'est un film qui est original et très étonnant. Il s'agit de l'histoire d'un descendant des hippies et des indiens en Amérique du Nord, un sacré marginal, un grand diable au visage mangé de marbre, de barbe, pardon, qui niche avec ses 6 enfants au creux de cette forêt américaine et se déplace dans un bus. Il faut bien un bus pour cette grande famille. C'est un père insolite dont l'épouse bipolaire va disparaître tragiquement et qui va vivre, lui tout seul avec ses enfants, une utopie anticonsumériste, anticapitaliste et athée, qu'il veut, à l'inverse de Rousseau, partager avec ses enfants. Et ses enfants sont à la fois conquis et inquiets et troublés. Les aventures de cette famille de Robinson ont une fraîcheur et un enthousiasme contagieux, exaltés par l'humour de la narration et l'authenticité des acteurs. Et je dois dire que le public des festivaliers a fait une longue ovation justifiée à l'équipe du film qui était présente dans la salle lorsqu'il est passé.
Oui, moi, je regrette beaucoup de ne pas l'avoir vu. Jean, toi, tu as aimé?
Oui, j'ai aimé ce film, un peu moins que Jean-Michel. J'ai surtout aimé la confrontation entre ces enfants venus du sauvage et des enfants élevés à l'américaine avec leurs marques, avec leurs t-shirts, avec leurs terminaux. Ça, c'était vraiment très, très bien.
C'est la réussite, oui.
La réussite, oui.
J'ai pas vu non plus, malheureusement.
Oui. Mais pour vous, c'était un des meilleurs films de la sélection, alors.
De certains regards.
Qui, par ailleurs, enfin, moi, m'a quand même un petit peu déçu cette année.
Complètement, oui.
Habitué à des meilleures qualités des films d'un certain regard.
Il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même qui étaient pas mal, pas trop mal.
Oui, mais enfin, il y avait un contraste avec la compétition elle-même.
Oui.
Il y avait une baisse de tension entre l'une et l'autre.
Absolument, oui. Il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup de premiers films dans cette compétition d'un certain regard. Bien, eh bien, il y a encore tout un autre domaine du Festival de Cannes qu'on n'a pas encore du tout abordé. Ce sont les deux sélections dites parallèles, la semaine de la critique et la quinzaine des réalisateurs. Alors là, comme il est très difficile à Cannes de suivre à la fois toutes les sélections, je crois que surtout c'est notre ami Jean là qui a pu la suivre et qui va se livrer un petit monologue pour essayer de présenter un petit peu ces films de ces deux sélections, enfin une sélection de ces films de ces deux sélections.
Oui. Alors l'avantage de sélection parallèle, justement, c'est de nous montrer des films de pays et ou de réalisateurs peu connus cinématographiquement. Cela est parfois décevant, mais aussi on découvre des choses sympas. Par exemple, on trouve des films turcs, palestiniens, israéliens, marocains, libanais, singapouriens, cambodgiens, russes, mais aussi français, heureusement. Et d'ailleurs, les deux plus belles révélations, à mon sens, de la semaine de la critique viennent de France, avec Apnée, premier film hilarant de Jean-Christophe Meurice, où l'on voit Céline, Thomas et Maxence qui marchent par trois. Ils veulent se marier, avoir des enfants, manger des huîtres tous les jours et sillonner la Corse en quad. Le film roule de gag en gag, toujours drôle et de bon goût, et on se rappellera avec émotion la première scène où les trois protagonistes dansent tout nus sur la glace et celle où ils prennent un bain dans une baignoire située dans une vitrine d'un grand magasin. On nage dans le surréalisme et Buñuel n'est jamais très loin. Cannes n'est pas réputé pour ses comédies, mais là, on en profite. Le second film, franco-belge, dont je veux parler, est beaucoup plus pince sans rire. Il s'agit de Grave. Premier film, lui aussi, de Julia Ducournau. Justine, une adolescente surdouée, vient d'intégrer une école vétérinaire où est déjà sa sœur. Comme toute sa famille, elle est végétarienne. Mais au cours de son bizutage, elle est forcée de manger de la viande crue et cela révèle en elle des conséquences inattendues puisqu'elle va devenir anthropophage. Rassurez-vous, ce n'est pas un film gore et on rit plus qu'on a peur quand elle déguste le doigt de sa sœur sous l'œil attendri de cette dernière.
Ça fait me penser au film de Bruno Dumont, Malout.
Oui, un peu, oui. Tout le reste est à l'avenant et on ressort du cinéma avec la saine envie de manger un bon steak. Dans les autres sections parallèles, j'étais très impressionné par le film russe de Kirill Serebrennikov, Le Disciple. C'est l'histoire de la radicalisation d'un jeune de lycée. Tout y est. La haine du corps, la haine des femmes, les citations tronquées des textes sacrés, la contestation de la théorie de l'évolution, le mensonge, le meurtre pour la bonne cause, et surtout la veulerie et l'accompagnement implicite des autres gens. Mais ici, nous sommes en Russie, et il ne s'agit pas de musulmans, mais de catholiques orthodoxes, comme quoi le fanatisme existe partout. Le sujet est traité avec beaucoup d'humour, ce qui le rend finalement encore plus angoissant. Va s'opposer à lui une professeure qui résistera à cette décadence en clouant ses chaussures au parquet. devant la bêtise, je ne bougerai pas, dit-elle. Encore un coup de cœur, le deuxième film français des sœurs Delphine et Muriel Collin, Voir du pays.
Enfin des femmes.
Coulin.
Oui. Coulin, pardon. Coulin. Voir du pays. Marine et Aurore, deux jeunes femmes militaires de retour d'Afghanistan, passent par un sas de décompression de 3 jours à Chypre dans un hôtel 5 étoiles. Tout sonne vrai dans ce film. Les quelques flashbacks sur la guerre, les relations avec leurs compagnons d'armes masculins et le machisme de l'armée en général. La difficulté de se reconstruire après une expérience aussi traumatisante que la guerre, même quand on est militaire. Les réalisatrices savent nous faire partager les émotions de ces deux femmes, et ce n'est pas de la télé-réalité, mais bel et bien du très bon cinéma.
Merci Jean.
Je voudrais quand même ne pas laisser passer cette émission sans dire tout le bien que je pense d'un film hors compétition qui est celui de Albert Serra avec Jean-Pierre Léo en majesté puisqu'il joue le rôle du roi Louis XIV à l'agonie.
Et c'est un film magnifique.
C'est un film qui est absolument magnifique, on va pas le raconter, c'est indicible, mais c'est une apothéose pour Jean-Pierre Léo, dont chacun se souvient qu'il avait été cet enfant prodige dans les 400 coups de Truffaut il y a très longtemps, et ça a été un bonheur parfait, et nous l'attendons avec impatience sur les écrans.
Il a eu la palme d'honneur pour sa carrière.
Et il faut dire que c'est assez extraordinaire pendant 1h50 de réussir à voir sa caméra qui est toujours autour du lit de Jean-Pierre Léo, enfin de Louis XIV, sans qu'il y ait jamais d'ennui. C'est toujours riche et toujours présent.
Espérons qu'il sortira.
Et je voudrais aussi, puisqu'on en a encore un petit instant, dire une chose qui me frappe quand même quand je vois, c'est l'absence de femmes finalement, Marie-Jeanne. Si on regarde tout le palmarès, il y a une seule femme, il y a que Andrea Arnold été reconnue dans le palmarès. Oui. Alors qu'inversement, c'est très curieux, il y a un nombre considérable de femmes qui sont des héroïnes de films.
Tout à fait. Mais ça, c'est un regret aussi. La féministe que je suis.
C'est une position qui
ne peut pas toujours faire la parité. Hein.
Ouais. Non. Évidemment, évidemment.
Et puis souligner aussi que il y a eu quand même 4 films français dans la compétition, que c'était quand même beaucoup pour une compétition qui se veut internationale.
Oui.
Et qu'on ne peut que regretter que le seul film français distingué, c'est le film d'Assayas, et qui était beaucoup moins bon. Moi, je regrette beaucoup que Maloute, que j'ai beaucoup aimé, mais qui soit un petit peu long. Et même que le récit vertical d'Alain Guiraudy.
Je suis heureux que tu le cites parce que c'est un excellent film.
Oui, tout à fait, oui.
Malgré sa provocation.
Tout à fait. Bien, je crois qu'il est venu le temps de nous quitter. Merci à Marie-Jeanne, merci à Jean-Michel, merci à Jean qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui a assuré la réalisation technique. Et bien sûr, merci à tous ceux qui l'ont écouté. La prochaine émission de Chant contre Chant aura lieu le mardi 28 juin. Et nous vous disons donc à bientôt.